VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Burkina Faso, les experts n'ont pas réussi à identifier à l'aide d'analyse ADN les restes supposés appartenir à l'ancien président burkinabé assassiné le 15 octobre 1987 lors du coup d'état de Blaise Compaoré. Cette expertise était très attendue pour la suite de l'instruction du dossier devant le tribunal militaire, le dossier de l'assassinat du président Thomas Sankara. Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Sankara, parle des implications de ce nouveau développement dans l'affaire Sankara.
En tout cas, en ce qui concerne l'identification de la tombe, évidemment que ça laisse possibilité de doute, non seulement pour Thomas Sankara, mais pour tout, pour l'ensemble des personnes qui ont été enterrées avec lui. Rien aujourd'hui ne permet de confirmer qu'effectivement, les noms qui ont été mis sur chacune de ces tombes étaient avérés. Le doute, comme vous le dites, persiste aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne l'identification des restes et des tombes. Maintenant, est-ce que ça a une incidence sur la suite du procès? À mon avis, non. Parce que ce qui nous importe en tant qu'avocat, c'est de constater et de tirer la conséquence que Thomas Sankara et ses compagnons aient bel et bien été assassinés, ce qui n'est discuté aujourd'hui par personne. Et maintenant, c'est d'aller vers un procès pour établir la responsabilité des personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire.
Maître Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Sankara au Burkina Faso. Au Mali, des affrontements entre Dogon et Peul le week-end dernier dans le cercle de Koro, limitrophe du Burkina Faso, ont fait 31 morts, 27 Peul et 4 Dogon. Le calme est revenu depuis, a indiqué lundi soir l'armée malienne. Selon les médias locaux, ces violences seraient dues au meurtre d'un Dogon à la suite d'une dispute la semaine dernière. Des cultivateurs Dogon ont alors mené une expédition punitive contre deux villages Peul du secteur de Djankagou. Un détachement des forces de sécurité s'est rendu sur place dimanche pour s'interposer entre les deux communautés, a indiqué à l'AFP un habitant de Koro. L'armée a confirmé dans un communiqué avoir mené une mission de bons offices après les violences. Cela fait longtemps que la question de l'eau et du foncier suscite des différends et des malentendus entre les agriculteurs Dogon et les Peuls qui sont éleveurs, soulignent les experts. Mali toujours, l'insécurité semble devenir chronique dans le pays et n'épargne personne, soldats, civils et même les touristes. En une semaine, une dizaine de soldats maliens ont péri dans 3 attaques des djihadistes entre Ansongo, Bintagounou et Bamako. Et c'est dans ce climat que le gouvernement malien veut organiser un scrutin référendaire sur l'ensemble du territoire. Bamako se fonde en cela sur un avis de la Cour constitutionnelle qui évoque une insécurité résiduelle. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
La situation sécuritaire demeure une préoccupation pour les Maliens. L'insécurité gagne du terrain de jour en jour. Malgré cette situation, le gouvernement veut organiser le référendum le 9 juillet prochain. Mamadou Diawara, fonctionnaire.
Le référendum là est nul et non avenu. Les Maliens ne vont plus considérer ça parce qu'on est tombé dans une situation dont les conséquences se font encore sentir. Comme l'a si bien dit, le peuple malien est un peuple mis. Il n'a de leçons à recevoir des personnes. Il sait où va et comment y aller. Un gouvernement qui n'a pas d'espoir est un pays qui est parti en dérive. Parce qu'Ibeka, vraiment, il ne donne pas quoi. Il ne peut pas servir le Mali comme ça. Le Mali est tombé en chaos. Dans 2 ans seulement, le Mali ne peut pas s'en sortir encore. Il faut qu'on trouve une solution à ces problèmes-là très rapidement.
Dans Songo à Bamako, en passant par Hombori et Bintagungu, les soldats maliens sont la cible des attaques terroristes. Une dizaine d'entre eux sont morts, dont un dans l'attaque du campement Kangaba à Bamako. David Dambélé, webmaster.
C'est des attaques qui ne me surprennent guère. Vous voyez que du nord, ça s'est déplacé tantôt à Bamako, après ça a remonté au centre et maintenant ça redescend à Bamako. Et je pense que c'est vraiment une situation qui interpelle vivement les autorités à rester sur les qui-vive. La Cour constitutionnelle, elle fait une analyse complètement à côté de la plaque. Sur le terrain, on ne peut pas tenir des propos comme ça. L'insécurité, elle est une réalité au Mali.
La priorité des autorités priorité doit être la sécurité des personnes et de leurs biens partout au Mali. C'est ce que pense Boukari Daou, directeur de publication du journal Les Républicains.
De janvier à maintenant, il y a eu beaucoup d'attaques, il y a eu beaucoup de victimes, environ 500 victimes. On n'est pas sûr aussi que ça va s'arrêter de sitôt. Donc moi, je pense que nos autorités doivent savoir choisir maintenant les priorités pour que les Maliens soient plus sécurisés et abandonner vraiment les projets superfétatoires. Tout ce qui n'est pas l'essentiel, qui n'est pas la garantie de la sécurité des Maliens, abandonner ça pour vraiment se consacrer à la tâche pour laquelle ces autorités sont là.
Pour aider les forces de sécurité, il faut la collaboration des populations. C'est ce que préconise Ansoumane Maïga, Malien vivant aux États-Unis de passage à Bamako.
Il faudra que les populations collaborent. Il faudra que nous fassions notre introspection. Sans notre collaboration, ça ne peut pas marcher.
Le Mali est dans l'insécurité, alors que cela fait 18 mois que l'état d'urgence est en vigueur dans le pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad Al-Hussein, a accusé aujourd'hui les autorités congolaises d'armer une milice menant d'horribles attaques contre les civils dans le Kasaï, région du centre du pays en proie à des troubles. Je suis consterné par la création et l'armement d'une milice, Banamura, qui soutiendrait les autorités dans la lutte contre la rébellion Kamuina-Nsapu et qui a mené des attaques horribles contre des civils des groupes ethniques Luba et Lulua, a déclaré M. Zeid devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le haut-commissaire a demandé l'ouverture d'une enquête internationale alors que le Conseil des droits de l'homme devrait se prononcer jeudi ou vendredi sur un projet de résolution. En ce sens, à la demande de l'Union européenne. Les États-Unis ont apporté aujourd'hui leur soutien à cette initiative, mais la RDC y est fermement opposée et a envoyé lundi à Genève son ministre de la Justice, Alexis Tambo Mwamba, pour tenter de convaincre les diplomates de voter contre et pour leur garantir que le gouvernement congolais est déterminé à mener les différentes enquêtes nécessaires. La ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa-Likulia, a déclaré ce mardi au Conseil que Kinshasa accepte d'accueillir sur son sol une équipe d'enquêteurs de l'ONU venant en appui à la justice congolaise. Et toujours concernant la RDC, plus de 3000 personnes ont été tuées depuis octobre 2016 dans le Kasaï suite aux violences qui secouent cette région. C'est ce qu'affirme un document de la Nonciature apostolique à Kinshasa. Selon cette note technique de la mission diplomatique du Vatican en RDC, 3383 personnes sont décédées depuis octobre dans le Kasaï, alors que l'ONU avançait jusqu'à présent un bilan estimé à plus de 400 morts. Le document de l'Annonciature, daté du 19 juin, souligne notamment que 20 villages ont été complètement détruits, dont 10 par les FARDC, l'armée nationale congolaise, 4 par les miliciens et 6 par des auteurs inconnus. RCA, un accord de paix prévoyant un cessez-le-feu immédiat a été signé lundi à Rome sous l'égide de la communauté catholique de San Egidio entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Les détails avec Kia Badou.
Nous saluons un accord historique pour la République centrafricaine, s'est félicité le président de Sant'Egidio. Après 5 jours de négociations, les parties se sont engagées à un cessez-le-feu immédiat sous le contrôle de la communauté internationale. L'accord a été rendu public au siège romain de cette communauté, très impliquée dans les médiations en Afrique. Le gouvernement de Bangui devra se charger d'obtenir la représentativité des groupes militaires à tous les niveaux, poursuit l'accord, ainsi qu'à la reconnaissance de ces groupes comme partie prenante de la reconstruction. Sur le plan sécuritaire, les signataires s'engagent à la reprise de la libre circulation des personnes et des biens et à la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité. Des membres des groupes armés feront l'objet d'une insertion dans les forces de défense sur la base de critères préétablis et suite à une mise à niveau. Sur le plan social et économique, les signataires s'engagent entre autres au retour de tous les réfugiés et personnes déplacées et à la mise en place de programmes nationaux de reconstruction et de développement.
Et on sait à toujours plus de 600 soldats du Congo-Brazzaville déployés par l'ONU en Centrafrique et accusés d'agression sexuelle vont être renvoyés chez eux, ont affirmé des responsables de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, devra annoncer le départ de ses militaires aujourd'hui lors d'une conférence de presse à l'ONU. Cette décision fait suite à un rapport accablant de responsables de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, qui avait menacé de rapatrier ses soldats si rien n'était fait au sein du bataillon visé. Et pour terminer, crise migratoire, des dizaines de migrants dont des enfants pourraient avoir péri dans un nouveau naufrage au large de la Libye. C'est ce qu'annonce ce mardi le HCR. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.